Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
De midi 30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Et bonjour, bonjour, bonjour à
bonjour.
Tous.
Bonjour.
C'est donc l'émission Micro-ondes qui reprend les ondes du 97 FM. On est aujourd'hui dimanche 13 mai et on est heureux de vous retrouver. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et celles qui nous écoutent. Le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est les questions d'immigration et d'asile aussi, puisque justement, on est dans l'actualité brûlante et en ce moment, ce vote, c'est déjà voté à l'Assemblée, mais va être bientôt voté au Sénat, la loi immigration et asile, que je ne vais pas redonner le titre officiel parce qu'il est absolument dégueulasse, je trouve. Mais en tout cas, voilà, on est heureux du coup de retrouver nos invités pour parler de ces questions et des questions Dublin. On a autour de la table du coup avec nous Jo du CIIP, Lubin et Alex du
CIIP,
coup...
CIIP, comité interpeuple.
Pardon, comité, non, ouais, c'est ça.
Centre
d'information interpeuple. Lubin et Alex qui s'impliquent du coup autour du patio et qui sont aussi en lien avec les luttes en cours à Briançon, donc la frontière entre la France et l'Italie. Fanny de l'ADA, donc association aide aux demandeurs d'asile, accueil demandeurs d'asile. Autant pour moi. Non, mais. Et Vladimir, du coup, une personne demandeuse d'asile qui a été dublinée et qui en est sortie et du coup qui pourra nous raconter le parcours aussi du combattant que ça a été en plus de toutes les luttes en cours. Je vous propose pour lancer la discussion et ce débat de s'écouter tout d'abord un montage du coup et une interview d'un avocat qui revient un peu sur les principales conséquences de la loi immigration et asile du coup en cours d'examen par les sénateurs.
Il s'agit d'Alban Costa.
Il va se présenter lui-même. On écoute ça tout de suite.
Je suis Alban Costa, avocat au barreau de Grenoble. J'interviens principalement dans le domaine du droit des étrangers puisque ça représente 80-90% de l'activité de mon cabinet. S'agissant donc du nouveau projet de loi sur l'immigration, je dis nouveau projet de loi sur l'immigration parce qu'on en a quand même pratiquement un tous les 18 mois, si ce n'est moins. Donc, il y a à se poser la question d'abord de savoir si ce projet de texte a des aspects positifs pour les étrangers qui sollicitent un droit au séjour ou qui bénéficient d'un droit au séjour, qui vont avoir un renouvellement ou pour ceux qui souhaitent être rejoints par leur famille. Donc oui, premier aspect positif, ça va concerner les personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire ou qui sont reconnues apatrides et qui vont bénéficier directement de titres de séjour de 4 ans au lieu d'avoir un titre de séjour d'un an et dont les titres de 4 ans seront par la suite prorogés automatiquement en titre de 10 ans. Second point, ça va concerner la réunification familiale des personnes qui bénéficient donc de protection internationale. Il y a quelques aménagements du texte qui vont permettre plus facilement l'obtention d'un titre de séjour pour les membres de famille. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont deux toutes petites améliorations, mais qui vont concerner quand même, je ne sais pas, peut-être 50, 100 ou 150 personnes par an, tant mieux pour eux. Troisième point, il va y avoir toujours l'idée de l'immigration choisie, donc des aménagements s'agissant des entreprises innovantes, des passeports compétences et talents, et la possibilité d'obtenir plus facilement un titre de séjour pour des entreprises, entre guillemets, innovantes au sens de la loi, et bien entendu dans l'esprit du gouvernement actuel, avec également des aménagements en faveur des étudiants et des chercheurs. Il y a d'autres points qui peuvent sembler positifs, mais qui interrogent quand même largement. Premier point, c'est l'extension du bénéfice du titre de séjour ou du renouvellement du titre de séjour pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Eh bien, une première extension avec le vocable de violence familiale qui paraît être une bonne chose puisqu'on va être dans un cadre plus large où on peut avoir des gens, et en particulier des femmes, qui sont dans un contexte non seulement conjugal violent mais aussi quelquefois familial où on peut avoir la belle famille qui va commettre un certain nombre de sévices. Malheureusement, c'est des situations qu'on peut rencontrer. Donc, effectivement, on a une extension du cadre des violences. une extension également s'agissant du groupe de personnes déterminées, puisqu'on ne va pas seulement s'intéresser aux conjointes français ou conjointes de français, mais on va aussi s'intéresser aux conjoints ayant bénéficié du regroupement familial. Malheureusement, on se rend compte que si on creuse un petit peu, en réalité, on va lier l'octroi de ces protections et le bénéfice de ces protections à une procédure civile qui est la procédure qui vise à obtenir une ordonnance de protection de la part du juge d'affaires familiales. Et en réalité, cette ordonnance de protection, elle a des effets qui sont limités à 6 mois. Elle ne peut être renouvelée que dans des conditions qui sont très restrictives. Et si au départ, on avait l'impression de toucher un public plus vaste, en réalité, eh bien, dans les faits, on va se retrouver avec un élément de réforme qui, au contraire, va restreindre le nombre de personnes concernées. Il y a carrément dans ce projet de loi des mesures qui sont, à mon sens, totalement négatives et particulièrement choquantes. La principale, celle dont tout le monde parle, c'est l'allongement de la durée de rétention. Donc effectivement, donc cette question du doublement ou plus de la durée de rétention administrative, ça veut dire en réalité qu'on va maintenir dans des locaux dont on prétend qu'ils ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire parce qu'ils relèvent de la police et plus spécifiquement de la police de l'air et des frontières. Mais sur le plan de l'apparence, il faut savoir qu'on n'est pas dans une prison, parce que quand on voit les barbelés, quand on voit les personnes en uniforme, et quand on part du principe que toute liberté de mouvement, de circulation, et que toute entrée ou sortie est contrôlée, effectivement, on se pose beaucoup de questions sur le fait que non, ce n'est pas une prison officiellement dans le texte. Que veut le législateur en augmentant cette durée de la rétention ? Il veut rendre plus efficaces les mesures d'éloignement. En réalité, chaque étude qui a été faite et qui est un petit peu sérieuse sur le sujet, tend à démontrer que si une mesure d'éloignement n'est pas mise à exécution dans ses premiers jours, les probabilités qu'elle le soit par la suite sont très basses, si ce n'est inexistantes. Alors, comment ça se passe en pratique ? On place les gens en centre de rétention. Il y a un contrôle du juge des libertés de la détention qui intervient dans un délai qui était de 48 heures, qui avait été allongé à 5 jours et qui a été repassé en 2016 à 48 heures et dont on nous dit qu'il repasserait encore à 5 jours. Évidemment, le fait de limiter le contrôle, ça ne veut pas dire qu'on va accorder toute confiance à l'administration et qu'on va avoir la certitude que l'administration ne va faire que des choses bien. Ça veut dire au contraire qu'on va s'assurer qu'elle va pouvoir faire n'importe quoi le plus vite possible, avec le plus d'efficacité possible, puisque on supprime, ou en tout cas on retarde l'intervention du juge judiciaire, qui, je me permets de le rappeler, est le principal garant des libertés individuelles. Et puis, si on va au fond de la logique du texte, ça veut dire quoi ? Entre avoir un nombre limité de personnes à disposition pendant 45 jours et ouvrir le nombre de délais sans augmenter le nombre de places en centre de rétention, ça pose une vraie question pratique. Comment vous faites ? Le texte, évidemment, ne le dit pas. Le projet de loi est présenté comme étant de dire, on va en parler après, misons tout ce qu'il est possible de miser sur l'assignation résidence et le centre de rétention sera vraiment la mesure exceptionnelle. En réalité, tel que le texte est rédigé, moi, je comprends qu'on va vers un doublement des places en centre de rétention, donc la création de nouveaux centres, l'augmentation des centres actuels ou une compression des personnes sur place qui sont déjà dans des situations qui sont inhumaines, épouvantables, absolument abjectes. Donc de se retrouver avec une surpopulation exactement sur le même principe que ce qu'on vit en milieu carcéral, puisqu'on a des établissements qui sont surpeuplés à 200 ou à 250% ou au-delà. Deuxième point qui pose problème, c'est la question de la retenue pour vérification du droit au séjour. Actuellement, lorsqu'un étranger est appréhendé et qu'on se pose la question de savoir s'il est en séjour régulier ou non, eh bien les autorités peuvent le garder à disposition durant 16 heures. Et le projet de loi envisage de porter cette durée de 16 à 24 heures. Donc ça veut dire, en réalité, qu'on va se retrouver avec une mesure qui, en termes de temps, en termes de restriction de liberté, sera exactement la même que la durée initiale de garde à vue, sans avoir pour autant les mêmes garanties. Donc à partir du moment où on estime qu'on vit dans un pays qui est démocratique, je ne comprends pas comment on peut justifier de restreindre de la même façon les droits d'une personne dont on ne soupçonne a priori aucune infraction. Elle est là pour la vérification de son droit au séjour. Le séjour irrégulier n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale. Donc réduire les droits de cette personne et les calquer sur ceux des personnes qui, elles, par contre, puisqu'elles sont en garde à vue, c'est qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis un certain nombre d'infractions ou de délits ou de crimes, eh bien effectivement, il y a un changement de regard. Et en tout cas, un message qui passe et qui est un message qui est fort et qui est spécialement inquiétant. Autre point, c'est l'élargissement encore et encore de l'assignation à résidence. Ce projet de loi permettrait d'assigner à résidence directement au moment de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire, d'obliger les gens à rester à leur domicile, chez eux, chaque jour, durant un certain nombre d'heures, de façon à ce que l'administration puisse mandater la police pour venir les interpeller plus facilement et pour s'assurer de leur éloignement effectif. Là encore, on a une façon de traiter et considérer les étrangers qui est sensiblement la même que celle dont on traite des personnes qui sont détenues et qui exécutent leur peine à domicile avec un bracelet. Un point de procédure qui est dans ce projet de loi, c'est la banalisation de l'usage de la visioconférence. On dématérialise l'audience et d'une certaine façon, on dématérialise le juge aussi. Quand on lit toutes les études qui sont faites sur la question de l'affect ou de l'absence d'affect afférente à l'utilisation d'un écran, on se rend bien compte là aussi que l'objet, c'est d'aller dans l'efficace et de faire en sorte que les magistrats aient le moins possible conscience de ce qu'il s'agit d'une personne. Dernier point négatif dont je vais vous parler, c'est la question des parents d'enfants français. Eh bien, le projet de loi, pour éviter les reconnaissances entre guillemets de complaisance, eh bien, ce projet de loi va modifier le système de déclaration, va prendre un certain nombre de mesures pour s'assurer de ce qu'il ne s'agit pas de reconnaissance de complaisance. Donc, on est bien dans une situation où on va avoir un risque de discrimination. On va faire un traitement différencié selon que l'un des deux parents est français ou les deux. Et puis, la possibilité pour les personnes d'obtenir un titre de séjour en tant que parent enfant français va être limitée au cas où le parent qui est lui-même français va participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par malchance vous faites un enfant avec quelqu'un et que cette personne va abandonner cet enfant, eh bien on va vous opposer le comportement du père ou de la mère pour justifier que vous ne pouvez pas bénéficier d'une régularisation à ce titre. Se pose la question de ce qui est absent. Eh bien, se pose la question de la situation des enfants dans les centres de rétention. Qu'advient-il des enfants mineurs? L'administration peut toujours prétendre que c'est très rare. Dans la pratique, nous savons très bien qu'il y a chaque année des enfants, quel que soit leur âge, qui sont placés en centre de rétention. Régulièrement, il est mis un terme à ces rétentions au motif de l'indignité des conditions de rétention d'une famille accompagnée de très jeunes enfants, puisque on sait bien que ces conditions sont absolument scandaleuses. Évidemment, si on part du principe qu'on va reculer le contrôle du juge de 5 jours, que la question du contrôle par le juge de la présence des enfants, des conditions de vie des enfants dans les centres de rétention, Dernier point qui était attendu et qui n'est absolument pas traité, c'est la question du délit de solidarité. Officiellement, il n'y a pas de délit de solidarité. Dans la réalité des choses, nous savons très bien que même s'il est très difficile pour les autorités de condamner les membres des associations pour l'aide au séjour irrégulier ou l'aide au maintien irrégulier des personnes sur le territoire français, puisque le texte suppose qu'on agisse dans un but qui ne soit ni altruiste ni humaniste et pour des raisons vénales, on se rend bien compte quand même qu'il y a un certain nombre de poursuites qui sont toujours encore régulièrement engagées et il serait quand même temps de sacraliser la solidarité pour ce qu'elle doit être.
Et c'est donc toujours l'émission Micro-ondes qui est sur les ondes de Radio Kaléidoscope, le 97 FM. On retrouve nos invités du coup sur le plateau pour parler des questions asile et immigration. Voilà, Vladimir, Fanny, Alex, Lubin et Jo. Merci encore d'être venus avec nous. Est-ce que vous avez un premier retour sur le montage qu'on vient d'écouter, l'interview du coup d'un avocat revenant sur la loi Asile et Immigration ?
Oui, Fanny. Oui, je voulais revenir un peu sur le volet asile, parce que c'est vrai que il y a 2 ans, la dernière réforme, il y avait une première réforme asile et une deuxième réforme sur l'aspect immigration. Là, le gouvernement a choisi de mettre les deux volets ensemble, ce qui n'est pas anodin. Donc Maître Costa est revenu longuement sur les aspects liés au volet immigration, sur l'aspect asile, c'est toujours dans la même logique de dissuader les demandeurs d'asile de déposer leur demande en France. Il y a plusieurs aspects qui viennent entraver en fait le droit d'asile et les garanties que les demandeurs d'asile avaient jusqu'à maintenant. En particulier, un des premiers points, le demandeur ne pourra plus choisir la langue dans laquelle il sera entendu ensuite pendant tout le long de la procédure, sera déterminée au moment de son passage à la préfecture. Or, il y a souvent des erreurs, ne serait-ce que parce que à ce moment-là, il n'y a pas forcément d'interprète qui est présent à la préfecture. Le risque, c'est qu'il soit entendu dans une langue qu'il maîtrise mal, qu'il comprend mal, et dans laquelle il ne pourra pas s'exprimer et exprimer ses craintes en cas de retour. Un des points qui nous touche aussi particulièrement, parce que à l'ADA, donc l'association Accueil Demandeurs d'Asile, on accompagne les demandeurs dans la rédaction de leur recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile s'ils ont eu un premier rejet en première instance. Le fait que la décision puisse être notifiée par tout moyen sans qu'on puisse déterminer quel moyen, ça voudrait dire peut-être qu'un SMS suffirait à la personne pour qu'elle sache qu'elle a un rejet, mais et enclencherait en fait le délai de recours qui est lui-même aussi raccourci à 15 jours au lieu d'un mois, sachant que en droit administratif, Les recours contre les décisions administratives, on a 2 mois pour déposer un recours. Donc le délai de 1 mois était déjà dérogatoire en termes de droit administratif. Et là, il voudrait le passer à 15 jours. Donc 15 jours, la personne doit recevoir la décision, la comprendre, essayer d'encaisser le fait qu'elle a obtenu un rejet et pouvoir déposer un recours, trouver un avocat pour qu'il puisse la défendre au titre de l'aide juridictionnelle. Ça restreint d'autant plus, parce que tout l'objectif de la réforme étant tourné sur la réduction des délais, en réalité, la réduction des délais, elle se fait au détriment du demandeur, puisqu'elle se fait dans les phases, donc soit de notification des décisions, soit même d'entrée dans la procédure où on exige du demandeur qu'il dépose sa demande dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire et non plus 120 jours au risque d'avoir sa demande traitée en procédure accélérée, donc plus rapidement. Donc les vidéo audiences dont parlait Maître Costa sont aussi utilisées, enfin seraient aussi utilisées dans le traitement à la Cour nationale du droit d'asile, et c'est d'autant plus préjudiciable aux demandeurs que, enfin, on imagine mal comment un juge qui n'a pas la personne en face d'elle, qui voit la personne à travers un écran, avec des difficultés de connexion qu'il peut y avoir, puisse déterminer les craintes de la personne dans de bonnes conditions. Donc ça fait beaucoup d'aspects très techniques. C'est une loi qui est très technique. On n'a pas l'impression, même en parlant avec des députés ou des sénateurs, qu'ils en aient compris les enjeux et les conséquences que ça peut avoir pour le demandeur d'asile, parce qu'encore une fois, le grand absent de la réforme, c'est le demandeur d'asile. Et par rapport aux autres réformes, il n'y a pas eu de concertation non plus avec les associations.
Pour les autres réformes, c'était plus souvent le cas. Il y avait souvent une consultation ou une concertation, comme ils disent.
Voilà. Il y avait eu une concertation à la dernière réforme. Celle-là, elle a été vraiment faite à la va-vite, parce que chaque gouvernement doit faire sa réforme de l'immigration et de l'asile, mais on ne voit pas en quoi ça va améliorer les difficultés qu'il peut y avoir. C'est une réforme inutile. Le Conseil d'État, dans son avis, a quand même dit que c'était une réforme qui, pour lui, semblait inutile et ne vient qu'aggraver, en fait, la situation des demandeurs, donc les principaux intéressés.
à ce sujet. On a l'impression que depuis une trentaine d'années, où presque tous les ans, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, on a une réforme sur le, ce qu'on appelle le CESEDA, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'immigration. Chaque réforme va toujours dans le sens d'un durcissement de la réglementation, de la législation, et d'une diminution des droits des gens qu'on accueille en France, ou qu'on n'accueille pas.
Oui, c'est une loi qui vise, encore une fois, à dissuader les personnes de venir déposer leur demande en France. Les personnes préféraient, le gouvernement préférait qu'ils aillent demander l'asile dans un autre État européen plutôt qu'en France et ne pas avoir à les accueillir.
Et souvent, une compétition du non-accueil, en fait, entre les pays européens.
Pour ne pas être l'État qui va accueillir les demandeurs. On est quand même troisième au niveau européen dans l'accueil. Donc l'Allemagne reste l'État européen qui accueille le plus de demandeurs d'asile. Ensuite l'Italie, nécessairement comme porte d'entrée. Et la France est troisième. Donc on n'est pas submergé par la demande d'asile. On pourrait très bien accueillir, on pourrait mieux accueillir. Il n'y avait pas d'urgence à faire une réforme pour accélérer les procédures et pour permettre d'accueillir plus de personnes.
Jo, tu voulais rajouter quelque chose ?
Je voudrais rajouter que, au-delà même de ce qu'a dit Maître Costa, c'est qu'il y a une triple intention, il y a une triple volonté de la part du gouvernement dans cette loi. Il y a aussi une migration. Première, en amont, d'abord, dissuader le maximum de migrants potentiels de venir jusqu'en France. C'est ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire en payant avec l'Europe des pays comme la Turquie, comme la Bulgarie, comme la Libye, etc., pour qu'ils retiennent dans des hotspots ou dans des camps, souvent dans des conditions épouvantables comme en Libye. D'une part, c'est un peu une honte comme ça de cet arrêt en amont. Deuxièmement, sur place, d'essayer, comme l'a dit Fanny, de rendre de plus en plus difficile, de plus en plus aléatoire, les conditions de dépôt, de demande, même d'asile, parce qu'en plus, il y a un lien direct entre asile et séjour, puisque maintenant, les gens n'auront pas, ils sont fait une demande d'asile, ils n'auront pas le temps, ils n'auront pas le droit après de déposer une demande de séjour.
Ça, c'est toujours en cours, oui, c'est toujours une mesure en cours de cette loi, que moi je trouve. Ou plutôt, est-ce que c'est des... moi, ça me paraît être justement quelque chose d'extrêmement grave, entre guillemets, sur le parcours des personnes. C'est vraiment quelque chose qui est toujours d'actualité. Je me permets de couper, mais...
Pardon. Et enfin, troisième objectif, c'est de renvoyer le maximum. Actuellement, le gouvernement se félicite d'être passé à peu près de 30 000 à 37 ou 40 000 renvois dans l'année. Peut-être qu'ils pourront envoyer peut-être 45 000 ou 50 000, mais pas beaucoup plus, à moins d'affréter des charters tous les jours. Ça se saurait quand même. Par conséquent, ça veut dire qu'il y aura des dizaines, des centaines de milliers, c'est déjà le cas déjà, des centaines de milliers de personnes qui sont sans aucun droit, quand ils récusés, qui ont été déboutés de tout, et qui n'ont aucun droit. Et ça, c'est inadmissible. C'est dramatique qu'une société, un gouvernement, accepte qu'en son sein, au sein de la société, il y a des centaines de milliers de personnes qui restent déboutées de tout sans aucun droit. Ça, c'est absolument, c'est dramatique.
En hyper précarité, donc.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est enfoncer les gens dans un état de précarité extrême au niveau de leurs droits sociaux et élémentaires, droit à l'hébergement, droit à l'aide sociale, droit à l'accompagnement social, droit de travailler. Ce qu'elle condamne au travail au noir, c'est pour ça qu'il faut soutenir la lutte extraordinaire, ce qu'on appelle les travailleurs sans papier, c'est-à-dire de ceux qui sont bien obligés de survivre en travaillant, mais qui travaillent sans papier. Heureusement, en région parisienne, ils ont obtenu une assez grande victoire. Il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs centaines de travailleurs sans papier qui ont obtenu qui ont arraché leurs papiers. Mais c'est un travail immense, et à Grenoble notamment, on a le syndicat des travailleurs sans papier qui manifeste régulièrement en place de Verdun. Et donc, il faut les soutenir, parce que c'est une exemplaire et qui montre bien qu'on ne peut pas accepter que le gouvernement enfonce des personnes célibataires ou familles dans une situation de non-droit absolu.
Est-ce que tu pourrais nous parler, tu es un des animateurs de la coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la situation locale et peut-être si tu veux nationale qui est en train de se développer et également les luttes qu'on est en train de mener sur Grenoble?
Alors, effectivement, il y a maintenant une dizaine d'années, peut-être rappeler qu'en 1996, il y a eu donc des travailleurs sans papier qui ont occupé des églises à Paris. Hein, et à la suite de ça, à Grenoble, on a créé très rapidement ce qu'on appelle la coordination iséroise de soutien sans papier, qui est devenue la CISEM dans 2006, je crois. La CISEM, ça veut dire coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants. C'est une coordination qui regroupe une vingtaine d'organisations associatives syndicale et politique, qui ne veut pas rester uniquement à l'humanitaire, c'est bien d'accueillir que toi, moi, n'importe qui accueille chez lui des personnes, un accueil citoyen, c'est très important, mais c'est encore mieux, à mon avis, de lutter pour que l'État lui-même reconnaisse son obligation d'héberger et d'accorder des droits à tous les demandeurs d'asile et de séjour. Donc on a créé cette coordination-là, qui, je crois, maintenant fait un travail quand même très important et bien connu, je dirais, pour lutter pour les droits, que ce soit au niveau d'hébergement. C'est inadmissible qu'en Isère, on peut discuter des chiffres, mais il y a bien pas loin de 2000 personnes qui sont sans toit, ou quasiment, sinon plus, parce qu'on ne va pas discuter des chiffres. Également au niveau des conditions d'accueil en préfecture. Maintenant, par exemple, il faut absolument que, pour demander d'être reçu en préfecture, il faut déposer une demande par Internet. Hein. Et par conséquent, beaucoup de migrants ne peuvent le faire qu'en passant par une association. C'est vraiment une sorte de décision qui est très, très discutable. Et de façon générale, les luttes qui sont menées, c'est par rapport aussi au centre, le CDI, donc le centre départemental Isère, qui retire régulièrement les droits à l'aide alimentaire. Ne permet pas aux travailleurs sociaux de faire un accompagnement social vraiment valable. Autrement dit, c'est un travail, je dirais, continu, un combat que nous devons mener. On a soutenu aussi le squat de la Rugée. Enfin, on pourrait multiplier un peu les exemples. Je crois que pour nous, c'est lutter pour les droits des migrants, quels qu'ils soient demandeurs d'asile, qu'ils soient de séjour ou des déboutés. Les droits sociaux fondamentaux, c'est le droit à un toit, c'est le droit à de travailler. C'est aussi, c'est pas normal que demandeurs d'asile, jusqu'en 90, non, il y a longtemps déjà, les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler. Ce droit leur a été envoyé, je crois, en 1990 à peu près. Hein. C'est quand même inadmissible. D'autre part, même pour les demandeurs de séjour, on leur délivre souvent des récépissés sans droit au travail. Et je crois que ça leur enlève toute autonomie, et c'est pas admissible, à mon avis, que des êtres humains, quel que soit leur statut, n'aient pas le droit à d'autonomie au niveau de la pour survivre à leurs besoins. Donc c'est tout un travail, je dirais, continu que fait la CISEM pour faire pression auprès du préfet, mais aussi des institutions locales qui pourraient faire plus. Qui fait pression, je dirais, par conséquent, pour obtenir la satisfaction, la réalisation de ses droits fondamentaux, je dirais, dont sont privés l'immense majorité des demandeurs, même d'asile, parce que vous savez que l'État, en principe, a obligation de loger dans des CADA, dans des centres d'accueil des demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile. Or, il y a beaucoup de demandeurs d'asile, il y a beaucoup de places qui manquent dans les CADA. Donc, c'est un problème général, je dirais, de manquement très très grave de la part de l'État à ses obligations, je dirais, élémentaires, alimentaires, fondamentales.
Et du coup, cette loi qui va encore empirer la situation, elle a été votée à la va-vite, un peu comme tu l'as dit, Fanny. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu un front de résistance qui a eu le temps de se mettre en place pour faire face et qui a réellement une opposition au niveau des associations, au niveau peut-être en convergence avec le mouvement social dont on a parlé lors de notre dernière émission, voilà, où ça se croise dans tous les sens au niveau des luttes. Est-ce que vous sentez que là, il y a un rapport de force qui est en train de se mettre en place, qu'il y a des choses à jouer?
Vas-y, Lubin.
Merci. Ben, disons qu'on a, on a participé à justement une coordination nationale qui s'est passée il y a environ, c'était il y a 2 mois, je pense, environ. Et disons qu'il y a des choses qui se mettent en place qui sont assez difficiles à finaliser, je pense, parce qu'on a tous des... c'est assez compliqué de mettre en place une coordination nationale et locale aussi, quand il y a toutes également ces différences aussi idéologiques, des fois, qui peuvent se créer. Mais tout de même, il y a des liens qui sont créés entre les différents collectifs, les différentes associations. Et je pense que c'est effectivement possible de créer une sorte de rapport de force, en tout cas médiatique, par rapport à des petites actions, comme vous avez dit sur la rue G, etc. Mais que c'est vrai que de manière nationale, pour l'instant, je pense que c'est encore un chemin qui a à parcourir. Et c'est notamment un chemin qui est rendu difficile par le fait que, par exemple, la loi, c'est une loi qui est effectivement qui est très technique et qui du coup jette un peu un flou sur on va dire l'opinion publique, parce que quand on parle de loi anti-immigration et qu'on parle de CADA, de centre de rétention, etc., c'est des choses que les gens connaissent pas forcément et qui du coup jette un peu un voile sur la question, où les gens savent pas forcément quoi penser de cette loi, même si en soi idéologiquement je pense qu'il y a énormément de gens qui sont d'accord en France pour dire que oui, il faut accueillir des demandeurs d'asile et que c'est pas bien de criminaliser, etc., et de rendre de faire devenir la France comme une prison. Mais disons que c'est aussi un peu une technique gouvernementale, je pense, de jeter tout ce côté très très technique et de dépersonnifier également toute la question de la demande d'asile.
Oui. Et au niveau grenoblois, du coup, je pense qu'il y a une volonté assez partagée par divers collectifs, associations, plus ou moins institutionnelles en tout cas, de se rassembler et de lutter ensemble contre ces politiques, contre le climat ambiant donc xénophobe. Et donc il y a eu une première coordination qui s'est tenue il y a 2 semaines, il me semble, sur la fac de Grenoble, qui a donné lieu du coup à une première action, un cortège de soutien aux sans-papiers, dans lequel étaient présents des membres du PACIO et en lien aussi avec le syndicat des travailleurs sans papiers de Grenoble, qu'on a mentionné. Et donc, il y aura aussi un autre rassemblement le 14 mai, auquel on invite toutes les personnes qui se sentent, en tout cas, intéressées par ces questions et qui veulent lutter avec nous.
Oui, simplement aussi pour dire que j'ai, enfin, un petit point de cette loi que j'avais cru comprendre et comment aussi le gouvernement entretient un peu la division, c'est notamment autour de la question du délit de solidarité, où là, donc, jusqu'à présent, donc, c'est un point qui revient souvent dans le débat, de dire est-ce que c'est vraiment un délit de donner à manger, de donner à boire, etc. Et là, le gouvernement dit non, c'est pas un délit de donner à boire, à manger ou des soins à vraiment quelqu'un qui est très souffrant. Par contre, absolument, c'est un délit de passer les frontières, etc. Et derrière de faire passer les frontières à des personnes, etc. Et derrière cette petite distinction, je ressens aussi une volonté de diviser justement les personnes qui auraient des raisons de s'unir, et notamment sur des niveaux de radicalité, et de dire oui, vous, il y a pas de souci, vous restez légal, vous restez nos amis. Vous, par contre, nos amis, ou en tout cas vous restez des personnes qu'on ne peut pas ne pas respecter, entre guillemets. Par contre, vous les autres, ceux qui sont trop politiques, vous n'avez pas votre place.
C'est important de rappeler aux auditeurs que le 30 avril est parti une marche de Vintimille qui ira jusqu'à Douvres le 7 au 8 juillet, je crois. Qu'il est question, c'est pas encore finalisé totalement, mais question qu'il y ait une marche de Grenoble à Lyon pour rejoindre cette marche, parce qu'elle ne passe pas par Grenoble, elle va passer par Lyon. Donc ça partirait vers le 21 mai, enfin, c'est encore à confirmer, mais ce sera important. Et je crois que cette marche-là de Vintimille jusqu'à Douvres, ça par contre c'est une façon de finaliser et de faire connaître dans des villages par lesquels va passer cette marche, de faire connaître aux habitants de la France. Il y a quand même une cinquantaine d'étapes entre Vintimille et puis... Douvres, et par conséquent, c'est quand même une occasion de faire connaître, de populariser, de finaliser son public un petit peu cette solidarité avec les migrants. Il y a à la fois des migrants, bien sûr, qui vont participer à cette marche principalement, mais aussi des associations, des militants, et je crois que ça, c'est une initiative quand même publique importante qui permettra peut-être de visualiser, de populariser la lutte que nous menons tous les jours en soutien avec les migrants.
Je propose, pour faire une petite pause et un petit changement de sujet, on s'écoute du coup un montage sur une association qui s'appelle Griselidis. Est-ce que tu veux nous en parler, Françoise ?
Eh ben, on reste un peu sur le sujet quand même, justement, aussi comment on arrive à faire exister ces luttes au sein d'autres luttes, parce que à Toulouse, lors de la manifestation dans le cadre du mouvement social du 19 avril, il y avait un cortège contre cette loi, asile immigration, et notamment avec des travailleurs et travailleuses qui bossent dans des associations qui accueillent des migrants et des migrantes, et qui s'étaient mis en grève pour la journée. Et donc là, on va écouter un reportage sur une de ces associations, en effet, qui s'appelle Griselidis. Donc tout ça, ça se passe à Toulouse. Et bah, pour nous, c'était important de donner une place à cette association parce qu'elle fait vraiment un travail qu'on trouve assez exceptionnel avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc, on va les écouter présenter un peu l'association et nous expliquer justement pourquoi il et elle s'étaient mobilisés le 19 avril. Et alors, je vais faire une petite précision parce que pour les personnes qui connaissent pas trop les problématiques autour du travail du sexe et les positionnements, et ben, en fait, il y a un terme qui va être utilisé qui est l'abolitionnisme. Et du coup, quand on, en gros, il y a deux approches autour du travail du sexe. Il y a une approche abolitionniste qui dit qu'en gros, il faut lutter auprès du gouvernement ou faire de la pression auprès du gouvernement pour qu'il y ait des lois qui soient passées. Pour, en gros, des lois répressives, quoi, contre le travail du sexe, contre les clients, dans le meilleur des cas, voire contre les prostituées elles-mêmes. Et c'est un peu l'idée majoritaire en France, c'est l'idée de l'État. Et d'autres personnes qui ont une approche qui considère qu'il faut partir des besoins et des revendications des personnes concernées, c'est-à-dire, en gros, des meilleures conditions pour faire leur travail, être moins cible de potentielles agressions des clients ou de la police, qui, voilà, arrive plus vite avec de la précarité.
Ou des réseaux.
Voilà, et d'avoir des papiers plus facilement du coup. Donc on va, les personnes vont expliquer tout ça mieux que moi et on se retrouve tout à l'heure. On écoute.
Moi c'est June, je suis médiateur santé et chargé de com à l'association Griselidis. C'est une association de santé communautaire pour les travailleurs travailleuses du sexe qui existe depuis 1999. La moitié de l'équipe salariée à peu près et la moitié du CA vient du travail sexuel. C'est l'idée que c'est les personnes les premières concernées qui sont le plus à même de connaître et de mettre en place des stratégies de prévention adaptées. On a un local, on a des accueils sans rendez-vous et avec rendez-vous. On accueille des personnes pour des moments conviviaux, des ateliers collectifs qu'on organise comme des ateliers d'autodéfense par rapport au travail dans la rue, par exemple, des ateliers sur les droits par rapport à la police pour les personnes qui se font souvent contrôler, des ateliers aussi vélo, piscine. Et on fait aussi des suivis et accompagnements sociaux, que ce soit sur ouvrir des droits à la sécurité sociale, accompagnement au droit au séjour, etc. On a aussi une action internet, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de prostitution qui est passée sur internet. On a aussi une partie plaidoyer politique. Voilà, nous, on défend le travail du sexe comme un travail, et on est contre toute loi qui pénalise et criminalise le travail du sexe, ce qui n'est pas du tout la position de l'État français. Donc nous, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle voilà un plaidoyer politique pour défendre nos positions, aussi en lien avec d'autres associations en France, où on dénonce notamment les effets néfastes des dernières lois sur la prostitution, donc là notamment en ce moment sur la loi de pénalisation des clients qui a été mise en place il y a 2 ans, où on dénonce un peu les conséquences dramatiques que cette loi a sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Le projet de loi asile et immigration donc va durcir les conditions des demandeuses, des demandeurs d'asile en France. Nous, dans le public qu'on reçoit, il y a beaucoup de personnes qui demandent l'asile. Et on constate la fermeture des frontières et le durcissement des politiques migratoires, ça favorise les réseaux d'exploitation, parce qu'en fait, plus les personnes sont rendues vulnérables, moins elles ont de droits, et plus il y a des réseaux d'exploitation et de travail forcé qui peuvent se mettre en place. Notamment, pour un exemple, il y a encore une dizaine d'années, les femmes qui venaient d'Afrique subsaharienne, elles pouvaient venir en avion en France. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible, elles viennent par la terre, donc elles traversent plein de pays à pied, elles sont beaucoup plus exposées aux violences, elles doivent payer beaucoup plus d'intermédiaires, donc elles arrivent en France avec des dettes énormes. Donc nous, notre analyse, c'est vraiment de dire que plus on fermera les frontières et moins on donnera de droits aux personnes migrantes, plus elles seront exposées aux violences, au travail forcé et à l'exploitation.
Je m'appelle Noémie, je suis en formation d'éducatrice spécialisée en deuxième année à Toulouse, à l'IFRAS. Je suis en stage depuis 3 semaines à l'association Griselidis. Je ne voulais pas faire mon stage dans une association abolitionniste parce que moi je pars du principe qu'on respecte la personne. Enfin, la respecter c'est vraiment partir d'où elle est, la respecter avec ses choix et prendre en compte vraiment ses besoins et ses désirs. Chrysélidis est en grève cet après-midi. L'accueil est fermé.
Et c'est la deuxième fois qu'on est en grève et qu'on ferme un accueil du jeudi, ce qui est assez exceptionnel. Cet après-midi, il y a eu un appel à la manifestation et à la grève. Alors, j'ai plus exactement les signataires en tête, mais notamment, il y a la PADA, donc la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile avec Forum Réfugiés. Chrysélidis a suivi cet appel, évidemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là à manifester à Toulouse pour, du coup, dénoncer la nouvelle réforme de droit d'asile. Nous, on trouve que déjà, aujourd'hui, avoir accès au droit de séjour en France, c'est compliqué et que ça devient de plus en plus compliqué. Et là, de ce qu'on comprend de la nouvelle loi, c'est que ça va être des délais d'attente plus courts. Les délais d'attente plus courts, ça ne veut pas dire qu'il y aura des réponses plus positives, mais au contraire, ça semble être des procédures qui vont aller de plus en plus vite pour avoir des réponses de plus en plus négatives et des dossiers qui seront moins pris en compte, moins bien traités, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et après, il y a le fait que les délais dans les CRA, donc dans les centres de rétention administrative, vont être augmentés. Et nous, on est complètement contre ça parce que de base, on est pour le droit au séjour des personnes qu'on accompagne et d'ailleurs toutes les autres personnes migrantes. Sur le fait de mettre à l'abri les personnes victimes de traite, donc ça c'est un peu ce que la loi dit, ce que la loi prévoit. Elle prévoit du coup un dispositif qui s'appelle Accès, qui est censé mettre à l'abri ces personnes-là et les enlever de leur réseau en gros. Donc nous on fait peu d'orientation parce qu'en fait on se rend compte que pour intégrer ce dispositif c'est compliqué. Déjà il faut prouver que la personne elle a des menaces sur le territoire français actuel, il faut que la personne porte plainte et souvent c'est des freins assez importants parce que les personnes elles ont peur, elles sont pas en confiance à la police parce qu'elles sont pas forcément bien reçues, etc. Le dispositif Accès part du principe que les personnes ont des menaces, vivent des violences dans la traite des êtres humains. Du coup, elles sont placées dans des centres d'hébergement de réinsertion ou centres d'hébergement d'urgence. Et en fait, on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'elles vont aller. Donc ça, déjà, ça fait peur à ces femmes-là. Nous, on ne peut pas trop les rassurer non plus parce qu'on n'a pas d'informations. Et l'autre frein dans ce dispositif, c'est que quand ces personnes rentrent dans le dispositif Accès, elles n'ont plus de téléphone portable et donc plus de lien avec leur famille, leurs amis, leur soutien. Les femmes qu'on rencontre, et notamment les femmes migrantes, puisqu'aujourd'hui on parle de ça, leur première revendication, c'est quand même de pouvoir circuler librement en France et en Europe, et etc. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Et après, il y a quand même l'envie de pouvoir avoir accès à la santé, à la formation, parfois à un travail, et que en fait, tout ça, ça s'est rendu compliqué, et notamment par la première urgence qui est de pouvoir vivre en France sans avoir peur des contrôles policiers, enfin en ayant des papiers, etc. Et que du coup, ce premier frein, en fait, il freine toutes les autres choses.
Micro-ondes. Sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Nous sommes en mai, faites ce qui vous plaît.
Lona yelo bioko ya pesanga lo poko.
Ils sont calcinés dans nos rêves chez moi. Je crois en la vie, je rêve encore. Je vais pas faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce gagnage.
Je pars, c'est pour la dignité. Sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité. On me refuse tous les ports et tous les aéroports. On parle de paix, on m'a donné la mort.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi.
fils, va. N'oublie surtout pas que le destin de ta famille repose sur toi. Je sais que tu nous feras sortir des entrailles de la misère. Le cœur meurtri, je te laisse partir, mais en toi j'ai foi. Ma seule prière, c'est que tu ne finisses pas comme ton père. Père, père.
Mais si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi.
Et c'est donc toujours micro-ondes sur les ondes de Radio Kaléidoscope, le 97 FM. Voilà, et donc on se retrouve comme chaque dimanche de 12h30 à 14h et on est content du coup d'avoir tout un tas d'invités aujourd'hui avec nous pour parler des questions asile, immigration, etc. J'avais envie de passer la parole à Vladimir du coup, demandeur d'asile qui a été dubliné. Est-ce que tu peux nous raconter justement un peu comment aussi ces lois-là justement dont on a parlé de manière un peu théorique, ça s'inscrit concrètement, enfin ça se traduit par des galères aussi dans ton parcours, etc. Enfin voilà, comment toi tu vois ça en tout cas?
Oui, en fait c'est effectivement avec la loi aujourd'hui sur l'immigration, ça expose des demandeurs d'asile à la galère, à la précarité, parce que la plupart d'entre eux qui sont déjà reconduits dans le cadre du respect du Dublin, lorsqu'ils reviennent, lorsque nous revenons encore, parce que on pense que nous avons une histoire commune avec la France, donc nous parlons au moins le français, donc nous avons beaucoup plus de chances de s'intégrer en France par rapport à l'Italie ou dans un pays comme l'Allemagne où c'est très très difficile de pouvoir parler la langue allemande. Donc là, du coup, lorsque tu reviens finalement, tu n'as plus droit à l'allocation. En fait, tu n'as plus les conditions matérielles d'accueil, tu n'as plus droit, donc tu restes, tu n'es pas hébergé, donc c'est très compliqué. Ça expose en fait à la galère et à la précarité. L'Union européenne aujourd'hui est en train de jouer un double jeu en fait. C'est-à-dire qu'il faut protéger les frontières et il faut lutter contre l'immigration clandestine. Mmh. Et là, aujourd'hui, la lutte contre l'immigration clandestine, aujourd'hui, a pris le dessus, en fait. Donc, finalement, on ne parle plus de protection de droits, mais plutôt, il faut lutter contre l'immigration. Et lorsqu'on utilise le mot lutte contre quelque chose, c'est-à-dire cette chose, elle est vue comme une chose mauvaise. Donc, ça veut dire le fait que les gens viennent en Europe pour chercher la protection, pour pouvoir trouver la sécurité. Donc, c'est vu comme quelque chose de mauvaise. Et là, du coup, les conditions, le rôle que la France est en train de jouer en Afrique qui conditionne ses sorties, ses déplacements, ne sont pas vus comme quelque chose n'est pas vu comme quelque chose de mauvaise. Et du coup, c'est l'immigration en tant que telle qui est perçue comme quelque chose de mauvaise, donc il faut s'en prendre, donc il faut lutter. Et en luttant contre l'immigration, effectivement, c'est une façon de rendre vulnérables ces personnes-là, parce que ils sont là aujourd'hui, ils n'ont pas de voix. Nous n'avons pas de voix, nous ne pouvons pas parler, rien du tout. Nous n'avons pas droit à l'expression, rien. Nous sommes on a l'impression qu'on est un instrument donc qu'on essaie d'utiliser et pour des fins politiques ou pour des fins juridiques. Donc, si vous prenez par exemple l'autre fois, moi j'ai écouté Mme Sylvie Guillaume, la vice-présidente du Parlement européen, qui disait que effectivement que même le cadre de la convention de Dublin, que c'est inefficace parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont reconduits. Donc finalement, ils veulent changer la donne en fait. Il faut relocaliser des demandeurs d'asile dans les différents pays de l'Union européenne en fonction de leurs connaissances. S'ils ont des parents, des frères, des sœurs, ils vont essayer de les repartir en fonction de leurs connaissances. Et là, les autres pays de l'Union européenne n'étaient pas d'accord. Ils disaient qu'ils ne sont pas prêts à accueillir ces gens-là. Donc du coup, ils étaient même d'accord de verser, il y a des pays qui sont prêts d'accord à verser 150 000 euros pour une personne non accueillie. Donc ça m'a poussé à réfléchir, donc je me suis dit, ce n'est pas une question de moins, ce n'est pas une question de financement, donc dire qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, c'est juste des alibis, mais ce n'est pas vrai. Donc il y a de l'argent, parce qu'il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut investir 150 000 euros pour juste le fait de refuser d'accueillir une personne, alors qu'on pouvait investir moins dans son accueil, en fait. Mmh. Tu vois, juste pour dire que non, ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes politiques en fait qui sont en train d'offusquer aujourd'hui l'image de l'étranger. Et c'est pourquoi les étrangers vraiment sont aujourd'hui très exaspérés en fait. Parce que si vous prenez, mais en oubliant, il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier en fait. Il y a non seulement en voulant trier des migrants, deux fois, on peut vraiment évincer d'autres. Oui. Parce que vous pouvez protéger quelqu'un, peut-être qui n'était pas censé d'avoir la protection, et exclure quelqu'un d'autre qui est véritablement en danger dans son pays. Parce qu'avec les accords du Dublin, par exemple, si ça ne te donne pas d'empêche, parce que les accords du Dublin, ça t'empêche en fait de pouvoir déposer une demande d'asile. Alors que lorsque tu n'as plus cette chance de pouvoir justifier les raisons de ton départ, donc c'est comme si tu n'as pas la chance d'avoir l'accès à l'asile. Et là, ils disent que non, là, c'est un transfert, c'est la reconduite. Mais en fait, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de politique mise sur pied pour pouvoir vraiment se poser la question, est-ce que ces personnes qui se retournent là, quel est leur sort en fait? Est-ce qu'ils ont réellement suivi en Italie? Parce que la plupart des personnes qui sont reconduites en Italie, c'est des personnes, l'Italie ne s'occupe plus de ces personnes-là. Donc ils se retrouvent finalement livrés à eux. Il n'y a plus de solution, donc ils sont obligés de revenir. Et du coup, ils vont subir les mêmes rouages administratifs parce que lorsque tu reviens, tu seras encore replacé en procédure Dublin.
Combien de temps ça dure, cette procédure Dublin?
La procédure Dublin, elle dure à peu près, je crois, 3 mois pour saisir l'État et 6 mois pour le transfert. Donc le tout, ça fait, je crois, 9 mois.
D'accord, et pendant ces 9 mois, il y a, du coup, l'État va expulser continuellement les personnes, c'est ça? Enfin, si par exemple, la personne est expulsée en Italie et puis revient en France, elle va être réexpulsée de la même manière?
Oui, bien sûr.
Jusqu'à la fin de la procédure?
Oui, bien sûr, j'ai vu un qui est venu depuis, je crois, 2016, il est là, il a été assigné à résidence une fois, donc il a respecté, il a été reconduit en Italie, ensuite il est revenu encore. Et il a été replacé encore en Dublin et il a été reconduit pour une deuxième fois. Donc ça fait 2 ans qu'il est là, il est en train de tourner, il n'a jusqu'à présent pas eu vraiment l'accès à l'asile, en fait. Ouais. Donc d'exclure les gens alors qu'on pouvait les accueillir, parce que moi, à mon avis, protéger les gens et les aider à s'intégrer, les donner du travail, ça peut aider en fait à lutter contre plutôt la violence que l'immigration clandestine, parce que l'immigration clandestine en tant que telle n'est pas le problème en fait, mais c'est les politiques qui stigmatisent aujourd'hui l'immigration. Et c'est ce qui est très très difficile, parce que si avec la loi aujourd'hui, l'asile et l'immigration, si vous prenez cette loi là, donc ça veut dire beaucoup de gens, parce que en réduisant des délais de recours, des délais d'introduction, avec le Dublin, tout ça en fait, ça veut dire que nous sommes dans une direction de pouvoir éjecter beaucoup de personnes. Et là, en mettant beaucoup de personnes dehors, finalement, ils vont se retrouver sans travail. Et là, si tu n'as pas de papier, tu n'as pas le droit de travailler, tu ne peux pas aller chez toi non plus, parce que tu n'as même pas de passeport, comment tu peux voyager? Tu ne peux pas voyager. Et avec les accords du Dublin, ça veut dire que tu ne peux pas aller encore dans un autre pays de l'Union européenne. Ça devient très, très compliqué. Et finalement, les gens, ils vont se retrouver sans travail, et ça crée ce qu'on appelle la frustration. Et plus les gens sont frustrés, plus... parce que lorsque vous êtes frustré, alors que vous n'arrivez pas à exprimer votre frustration, ça crée en vous ce qu'on appelle la violence. Parce que vous vous exprimez en ce moment avec les actions. Et les actions ou les verbes que vous allez utiliser, ça peut être violent.
Bien sûr.
Parce que tout simplement, tu n'as pas le droit de parler aux médias, personne ne va t'interroger. Toi, tu dois subir que subir. Alors qu'à un moment, il arrivera un moment où tu auras un déclic, en fait, tu n'en peux plus. Donc finalement, ça crée la frustration et ça crée la haine, et c'est ce qui entraîne justement la violence. Donc en voulant dire maintenant, il faut la sécurité, c'est les migrants, c'est la violence. Ce n'est pas les migrants qui sont violents en fait, c'est les politiques qui transforment aujourd'hui les migrants en des personnes violentes.
Ok. Fanny, je crois que tu voulais faire une précision.
Oui, sur la question de la durée de la procédure Dublin. En réalité, la procédure, elle prend fin avec le transfert. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a déjà passé 6-8 mois de procédure, qui est transféré, qui revient, la procédure repart à zéro. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'expiration, ça peut être sans fin. Il y a déjà une personne qui a été transférée 2 fois en Italie, qui a réussi à, dans les conditions qu'on connaît de passage en plus entre l'Italie et la France, à revenir une deuxième fois.
Et je pense que c'est un petit peu découragé de déposer une demande d'asile maintenant, mais enfin, c'est ça en fait. L'idée de la procédure, c'est vraiment de décourager les personnes de déposer une demande en France. À la base, la Convention de Dublin, donc, qui date de 90, c'était pour éviter que les demandeurs d'asile puissent déposer une demande dans plusieurs États. Et donc, l'idée, c'est de déterminer quel sera l'État européen qui va être chargé de la procédure d'asile. Donc, ils ont mis en œuvre, il y a eu plusieurs réformes. On est déjà au règlement Dublin 3 et donc Dublin 4 est en discussion actuellement au Parlement européen. Il y a des critères qui sont mis en place, comme le critère familial, où on ne peut pas séparer des membres d'une même famille, etc., etc. Mais ça laisse quand même beaucoup de personnes qui sont contraintes de... Enfin, qui se retrouvent sans pouvoir déposer de demande d'asile tout court. Mmh. Et c'est ce que tu disais, parce que des personnes qui ont engagé des démarches d'asile, par exemple, en Italie, qui ne sont pas allées au bout parce qu'elles se sont découragées des conditions d'accueil qui arrivent en France, si elles sont retransférées en Italie, elles ne vont pas pouvoir reprendre leur procédure là où elles l'avaient arrêtée, ou au prix de beaucoup, beaucoup de galères. Donc, souvent, elles font le choix de revenir en France parce qu'elles ont été, elles ont déjà passé 8 ou 9 mois en France, elles ont créé des liens avec des personnes en France, elles ont été peut-être hébergées dans des collectifs ici. Et comme tu disais, elles parlent français, elles ont plus de facilité aussi à s'intégrer en France. Mais on leur en empêche et le dépôt. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire peut-être dans la procédure. C'est ce que tu disais aussi, c'est que c'est complètement indiscriminé sur les critères de protection. Ça veut dire qu'on empêche des gens de déposer l'asile sans avoir jamais examiné les craintes qu'ils avaient en cas de retour. Il y a eu des cas de transfert aussi en Italie où à leur arrivée à l'aéroport de Rome, on leur a notifié une obligation de quitter le territoire italien. Donc potentiellement, il y avait un risque que cette personne soit transférée au Soudan sans que ses craintes n'aient jamais été examinées ni par l'Italie, ni par la France, ni par personne. Et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, à vivre pour les gens. Nous, on voit les personnes qu'on accompagne psychologiquement, c'est très dur. Il y a beaucoup d'attentes. Jusqu'au moment où elles vont avoir 48 heures pour contester la décision de transfert. Et là, d'un coup, le temps se raccourcit. Il faut réussir à mobiliser beaucoup d'arguments juridiques pour pouvoir contester une décision qu'ils ne comprennent pas, avec des opportunités de succès aussi assez faibles par rapport au tribunal administratif de Grenoble, par rapport à ce qu'on peut voir dans les jurisprudences d'autres juridictions administratives. Ce poids en fait de la procédure Dublin, on ne l'avait pas il y a quelques années. Il y a quelques années, des personnes étaient placées en procédure Dublin, mais pas systématiquement. Ça dépendait un peu des préfectures et il n'y avait pas cet examen particulier pour être sûr de ne pas passer à côté d'un examen par un autre État membre. Là, dans les préfectures, ils vont vraiment voir tous les arguments pour pouvoir voir, bon, alors est-ce que ce ne serait pas un autre État qui serait responsable de la demande d'asile ? Et depuis 2016, cette procédure est accompagnée par des mesures coercitives de plus en plus fortes, avec des assignations à résidence systématiques, des transferts sous escorte policière, menottés, enfin, tout ce qu'on parle, ce dont on parlait avant, au niveau de la criminalisation des demandeurs d'asile, c'est quand même assez fort. Et pour un coût qui est énorme et pour une efficacité qui est nulle, parce que de toutes les personnes qui ont été transférées, là, depuis le début de l'année, il y en a déjà eu 35. Il y en a 30 qui sont revenus. Donc, ça sert à rien de transférer les personnes si on s'assure pas que chaque État européen sera à même de permettre au demandeur de déposer sa demande dans de bonnes conditions, s'il y a un réel examen de la demande d'asile commun avec des garanties communes et des critères communs. En fait, la base de l'Union européenne, c'était quand même censé être la solidarité. Et là, on n'y est pas du tout avec ce règlement, parce que c'est les États au sud de l'Europe qui doivent payer le prix. Et et dans la logique actuelle de refonte du règlement en perspective, c'est pas forcément le choix du demandeur, encore une fois, qui sera mis en avant. Ce sera plutôt essayer de créer des mécanismes de répartition. Donc, on a déjà vu avec les mécanismes qui sont déjà en place pour les hotspots que ça fonctionne pas du tout. Que même si, quand un État s'est déclaré vouloir et pouvoir accueillir 30 000 demandeurs, il ne les accueille pas effectivement. Donc, on a du mal à comprendre comment généraliser ce mécanisme à l'ensemble des personnes en procédure Dublin. C'est quand même 40% des demandeurs en Isère. Comment généraliser ce système peu fonctionnel qui marche déjà pas sur des, pour une partie de la population.
Donc on voit que la procédure Dublin, c'est quelque chose qui, dans l'application, devient de plus en plus absurde, chacun pour soi, on va dire, hein, au niveau des États. Destructeur et même ça peut être criminel, hein, pour aboutir à des renvois dans des pays où les gens sont menacés. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit, Vladimir. Tu as dit tout ça, ces durcissements des lois, ça n'a aucune incidence. La vraie raison n'est pas du tout économique, financière, hein, puisque ça coûte finalement très cher. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. D'après toi, comment t'analyses cette obstination, acharnement exactement à vouloir tout faire pour compliquer la vie de ceux qu'on est censé accueillir?
Voilà. En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de budget, ni une question d'argent, mais en fait, le fait que les politiques utilisent aujourd'hui et justifient des violences et des crimes qui sont commis, le terrorisme, le trafic, que c'est de plus en plus que c'est effectué par des étrangers et finalement sur notamment des immigrés, des sans-papiers, le travail au noir, tout ça, tout ce qui concerne aujourd'hui la déviance dans la cité, donc c'est provoqué par des étrangers et du coup l'image de l'étranger est offusquée. Et là, ça contribue ensuite à jouer sur l'opinion publique. Et finalement, même le gentil citoyen qui était là, qui pouvait s'engager à aider l'étranger qui est dans le besoin, directement aura peur. Là, ils vont installer ce qu'on appelle la politique de la peur. Parce que finalement, vous allez vous dire que vraiment les étrangers, de toutes les façons, ils sont méchants, ils font de la violence, ils font des trafics, ils font tout ce qu'on appelle prostitution. Donc tout ce qui est en fait ignominie, en fait, ça provient de l'étranger. Donc du coup, il faut les rejeter. Il ne faut pas accepter de les accueillir en ce moment. Donc c'est pourquoi il y a en fait un tri dans leur politique de protection. Il faut trier les gens, il faut privilégier des catégories et tout ça. Sinon, ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas que Christian Taubira disait 24 000 personnes, ce n'est pas la misère du monde. Et avant même, comme disait Fanny, le Dublin, il a existé, mais c'est maintenant là qu'ils ont commencé à l'appliquer de façon stricte. Et l'immigration, depuis la guerre de l'Italie, les gens y venaient. Ce n'est pas aujourd'hui les gens ont commencé à venir en France. Donc ça a existé, ça va exister encore, parce que c'est pas parce que les lois seront durcies, les règlements, que les gens ils vont se dissuader. Parce que c'est des gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous pensez que la vie que vous avez à perdre n'a plus ne vaut plus la peine d'être vécue, alors là votre force est inouïe, vous n'avez pas peur de la mort. Les gens n'ont pas eu peur de la mort, de traverser le désert, le Sahara, la Méditerranée, mais c'est la loi qu'il va, et surtout quelle loi, une loi qu'ils n'arrivent même pas à lire et interpréter, parce que la plupart d'entre eux aujourd'hui, quand ils vont à la préfecture, ils vont vous présenter deux brochures, on vous dit voilà, dans les deux brochures il y a le Dublin qui est expliqué dedans, si tu comprends français, d'accord, si tu ne comprends pas français, on te trouve un traducteur. Et quel traducteur? Parce que c'est des textes qui sont des mots qui sont écrits dans le langage juridique, et du coup même quelqu'un qui est allé à l'école n'arrive pas à comprendre forcément le sens de le contenu de ces documents. À plus forte raison, un immigré, quelqu'un qui est venu juste parce que il veut la sécurité, il n'est pas venu parce qu'il est venu pour étudier.
Donc moi, s'il fallait résumer ce que tu dis là, c'est donner à manger à des idées xénophobes. Voilà, renchérir sur des, faire un peu de démagogie là-dessus, c'est surtout ça. Hein. Voilà. Et donc, on va peut-être passer la parole aussi au soutien de de Briançon.
Je crois que Lubin, tu voulais réagir sur la question aussi.
Je voulais réagir aussi sur la question directement parce que je pense que effectivement tu dis instrumentaliser cette peur de l'étranger. Je pense que plus globalement, ça peut aussi faire partie du fait qu'il y a un système qui est en place et que les gens et l'État veut pas que les gens se posent des questions sur pourquoi les gens partent et sur notamment parce que c'est énormément de pays d'anciennes colonies françaises. Déjà que c'est des gens qui sont très isolés en venant ici. Le fait d'accueillir plus de personnes et de personnifier ces personnes aussi, ça aurait l'effet que le débat de la France-Afrique en fait serait beaucoup plus prégnant au sein de la société. Et ça, c'est des questions que l'État va à tout prix éviter, je pense, parce que c'est un vrai danger et juste que les gens sont pas du tout au courant de ce qui se passe et que c'est aussi pour ça que la peur est instrumentalisée, je pense.
Voilà, justement, parce qu'il ne faut pas en fait chercher à savoir justement les causes du départ, parce que toujours la responsabilité va retomber sur eux, et donc ils ne veulent pas. Donc du coup, il faut vraiment, trouver des stigmates, des stéréotypes pour pouvoir vraiment étiqueter ces personnes-là. Et du coup, quand ces personnes sont étiquetées, ils deviennent une catégorie qu'il faut éviter. Et du coup, la population civile, les citoyens aussi vont soutenir la politique en fait, en disant oui, alors c'est normal si c'est ça. Vous voyez, donc la personne qui était censée de voir en une personne qui a besoin d'aide et de protection, non, mais c'est une personne qui est venue pour voler, pour nous piller et pour nous mettre en danger. Et si c'est un danger, il faut l'écarter.
Mais heureusement, il y a aussi d'autres réactions. Enfin, ce que tu dis est très vrai, mais il y a quand même du coup du soutien qui se met en place.
Oui, notamment, est-ce que vous voulez parler un petit peu, donc à Grenoble, on n'est pas loin d'une frontière avec l'Italie, donc qui est particulièrement concernée par les personnes qui ont été dublinées et qui tentent de revenir en France, etc. Et on parlait aussi de collaboration avec les forces xénophobes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la situation donc à Briançon récemment, Lubin, Alex, vous qui connaissez un peu ou qui êtes aussi un peu en lien avec des personnes là-bas?
Oui, ben du coup c'est vrai qu'effectivement ça faisait il y a 2-3 semaines les frontières ont commencé à être militarisées. En fait, il y avait des militaires qui étaient présents en tenue de neige au col de Montgenèvre du coup qui est la frontière entre Clavière et Montgenèvre pour aller vers Briançon du coup. Et ça commençait à être effectivement extrêmement difficile pour toutes les personnes qui essaient de passer cette frontière, de passer, parce que je pense qu'il y a une histoire de quotas et que les quotas durcissent en fait avec le temps, qui est sûrement une préparation d'ailleurs à la loi asile immigration qui est en train d'être votée.
Oui, et c'est aussi une période qui correspond à celle de la fin de la saison touristique. Et du coup, c'est clairement moins visible cette répression des personnes qui tentent de passer la frontière. Et donc, ça donne lieu à cette militarisation. En tout cas, c'est une interprétation qu'on a pu avoir.
Et effectivement, les événements qui se sont passés il y a du coup deux semaines, c'était le 22 avril. En fait, il y avait toute une ambiance qui était posée. À cause de la militarisation des frontières, mais également à cause de l'arrivée de Génération Identitaire sur le col de l'Échelle.
Donc Génération Identitaire qui est un groupuscule d'extrême droite hein, qui fait suite d'ailleurs au GUD qui a été interdit officiellement par l'État, enfin dissous.
Et ça offrait toute une ambiance. Alors je pense que l'idée de la manifestation du 22 avril qui était justement de passer la frontière. À vue, on va dire, en tout cas en plein jour, c'était aussi l'idée qu'il fallait faire un pied de nez en fait aux militaires d'une part, à la police d'autre part, mais également aux fascistes, et de dire qu'en fait toutes ces personnes qui ont besoin de se cacher sans cesse pour passer les frontières, qui ont besoin d'attendre la nuit, c'est vraiment des rythmes assez horribles qui passent dans la neige, que c'est je pense qui doit être assez traumatisant. C'était l'idée de dire bon arrêtons de se cacher et arrêtons de jouer le jeu de l'État et passer en force quoi, et c'était un moment je pense a pu être assez important pour toutes les personnes qui étaient là et qui a vraiment mobilisé du coup pas mal de personnes qui étaient des deux côtés de la frontière, des Italiens mais également des Français. Qui a fait que il y avait énormément de soutien à ce moment-là parce qu'il y avait environ 300 personnes qui sont venues pour soutenir la manifestation et qui était un vrai pied de nez du coup à Génération Identitaire et à l'État Bon, après, les suites ont été beaucoup plus compliquées, puisqu'il y a eu 6 interpellations, je pense, et 3 personnes qui ont été placées en centre de détention après ça. Et du coup, ça pose de vraies questions également sur qu'est-ce que c'est en fait le délit de solidarité dont ils ont été inculpés, parce que ces personnes ont été inculpées de passage illégal de frontières en bande organisée. Et ça pose également la question de quel rapport la police peut entretenir d'une part avec les soutiens aux migrants et d'autre part avec Génération Identitaire, parce que ces personnes de Génération Identitaire, eux, n'ont pas du tout été inculpées pour leurs actions, tandis que l'autre côté, par contre, a été beaucoup plus, c'était beaucoup plus criminalisé.
Petite anecdote d'ailleurs, c'est que nous avons appris qu'un des porte-parole de Génération Identitaire sur place était un proche de Gérard Collomb.
Voilà. Oui, le fils d'un ami, je pense.
Voilà.
C'est d'ailleurs une impression qu'on a pu avoir là-bas en voyant la police très proche des justement militants fascistes sur le même trottoir en observant.
Et ces histoires de milices, ça rappelle vraiment des mauvais souvenirs.
Mais soyons rassurés, puisqu'apparemment, une semaine après, la préfecture a annoncé la fin de la collaboration avec Génération Identitaire. On voit quand même, où ils en sont. Pendant une semaine, ils étaient d'accord pour que Génération Identitaire leur livre en pâture des personnes qu'ils arrêtaient eux-mêmes. Mais au bout d'une semaine, ils ont dit non, quand même, on arrête de travailler avec eux.
C'était super, mais...
C'est normal, parce que tous ces mots-là sont des mots, c'est les discriminations. Parce que quand on parle de l'identité nationale, c'est quoi l'identité nationale? C'est une façon juste de pouvoir écarter, de s'aimer la division dans une société. Oui. Sinon, aujourd'hui, il y a vous, peut-être que vous avez vos grands-parents qui viennent de l'Italie ou d'autres qui ont leurs grands-parents qui viennent de l'Allemagne et tout ça. Donc, il n'y a pas d'identité nationale en tant que telle. Ça a été, c'est que la rencontre de plusieurs personnes qui forment la société avec des origines différentes. Mmh. C'est ça. Mais juste ça, c'est une façon de lepeniser des esprits.
Mais ce que j'ai envie de vous poser comme question aussi, enfin à tout le monde, mais en particulier à vous qui êtes proche des gens de Briançon et autour, c'est quel soutien et comment on va pouvoir réagir à cette situation, au moins localement, hein, parce que je pense que ça concerne au moins la région et sinon tous les Français. Voilà, est-ce que vous avez vos idées là-dessus?
Ben, déjà, on pourrait dire que par rapport aux personnes qui étaient inculpées, justement, dont le procès va se passer le 31 mai.
On ne sait pas encore où, d'ailleurs. Il serait à Gap ou à Grenoble.
L'idée, ce serait aussi de profiter des coordinations qui sont en train de se passer à Grenoble pour aller soutenir, pour créer un rapport de force médiatique, mais également physique. D'aller à Gap, d'aller à Briançon, je pense que c'est des choses importantes. On est à 2 heures de Briançon, à Grenoble, passer un week-end, passer un jour, ça peut déjà ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui se passent là-bas. Créer des contacts également, des contacts qui sont très faciles avec les gens parce que c'est des gens qui sont très sympas. Et voilà, de profiter aussi qu'on soit unis pour continuer à écrire, continuer à soutenir, voilà, physiquement ou bien médiatiquement.
Même question pour l'ADA. Est-ce qu'il y a une manière dont on peut vous aider, notamment aider le travail que vous faites avec l'association, etc. Je sais qu'à un moment, l'ADA était presque débordée un peu de beaucoup de bénévoles, etc. C'est toujours le cas, par exemple?
Non. On continue d'accueillir les bénévoles. On a plus de difficultés après à former les bénévoles. Et puis, c'est un peu un parcours du combattant pour être bénévole à l'ADA aussi, parce qu'il faut arriver pendant les permanences et survivre à plusieurs permanences. Mais on accueille toujours les nouveaux bénévoles.
Ok. L'heure tourne un peu vas-y.
Je fais un petit dernier appel pour dire à toutes les personnes qui ont envie de venir au Patio Solidaire, qu'ils se trouvent sur le campus et que c'est super s'il y a de plus en plus de gens qui viennent, que ce soit pour faire des dons de nourriture ou bien juste pour venir passer et se poser un petit peu et voir un peu, se faire des amis. Voilà. Et faire des cours de sous-sous ou d'autres langues.
Voilà, du coup, l'heure tourne et on voulait, ouais, c'est ça. Ça peut être une bonne manière de clore un peu ce débat-là. On voulait parler un peu aujourd'hui de la campagne. Donc, on parlait du maintien en grande précarité des personnes migrantes, notamment celles qui n'ont plus de droits parce qu'elles sont déboutées du droit d'asile, mais qui n'ont pas été expulsées ou quoi. Jusqu'à présent, je crois que le conseil départemental versait une des dernières aides qui était accessible, notamment pour des familles. Aujourd'hui, ils sont en train de le d'arrêter ces aides-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Jo, et de nous parler de la lutte en cours sur ces questions ?
C'est important de rappeler que ce qu'on appelle dans le conseil départemental a pour mission principale l'aide sociale et la protection de l'enfance. Ça, c'est très important de rappeler. C'est une mission vraiment essentielle pour eux. Or, au niveau social, on s'est déjà bagarré à la 6e, il y a déjà plusieurs années déjà, pour forcer le conseil départemental à rétablir des aides financières, des aides sociales qu'ils avaient supprimées. Surtout, personne sans papier. Bon, et là, on a obtenu un moment donné, mais apparemment, depuis déjà quelques mois, ça recommence. Hein. Et d'autre part, il y a aussi le problème, comme mission principale, protection de l'enfance. Mmh. Or, d'une part, le conseil départemental refuse même d'héberger des familles avec enfants, même de 1 ou 2 ans. En principe, auparavant, il le faisait. Ça devrait faire partie de ses missions. D'autre part, il y a le grave problème des mineurs isolés, parce qu'en principe, ça revient quand même sous la responsabilité du conseil départemental, qui a même donné, demandé à la DAT, je crois, de s'occuper des mineurs isolés. Mais le financement s'est arrêté, donc la DAT ne peut plus maintenant s'en occuper. Et donc, il y a au moins une centaine, peut-être plus, de mineurs isolés qui sont un peu à la dérive à Grenoble, ou une situation très, très difficile. Et on va bientôt faire une démarche en direction du conseil départemental, à la fois pour le rétablissement des aides sociales et aussi des aides alimentaires et de l'accompagnement social, mais aussi pour poser le problème des mineurs isolés. Je crois que c'est très, très important. C'est inadmissible. Le conseil départemental, de l'Isère, manque à ses missions n'assume pas. C'est une mission fondamentale qui est l'aide sociale aux plus défavorisés et aux mineurs isolés.
Le défenseur des droits a été saisi, je crois.
Oui, le défenseur des droits, il est M. Brillon, je crois. Hein, il est au courant, et on est en lien avec lui. Il est venu récemment à une réunion du réseau Éducation sans frontières et RSF. Il a répondu à nos questions. Il avait conscience que c'est un problème très important. Il est prêt éventuellement à nous aider pour essayer de peser sur ce plan-là.
Okay. Eh ben, on espère qu'en effet, vous serez, on sera victorieux sur ce sujet aussi. Voilà. Et ça fait plaisir de voir en effet que les familles ne sont pas laissées complètement sans aucune ressource et à l'abandon. C'est la fin de ce débat. Merci de cette discussion. Merci d'avoir été présent autour de la table et puis d'avoir pu nous présenter un peu plus les conséquences aussi des lois, de ces lois racistes, hein, puisque c'était un peu la conclusion de la discussion finalement, de ces lois racistes en France. Voilà. Merci beaucoup d'être venu.
Merci, c'était vraiment Merci. Passionnant. Comme d'habitude, 1h30, ça semble trop court dans ces cas-là.
Je propose du coup d'avoir une petite... Donc François, je crois que tu avais préparé une petite brève aussi sur les questions de l'état raciste, notamment cette fois-ci en prison où une personne a été tuée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, du coup, il y a à la prison de Seyss, la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse, une personne qui a été tuée quand elle était au mitard, enfin en tout cas qui est morte. Et voilà, ce qui lui est arrivé, les avis divergent un petit peu. À Toulouse, il s'est passé plusieurs choses. Il y a eu pas mal d'émeutes, des arrestations. Il y a eu une marche blanche aussi. Et là, il y a un communiqué qui est sorti, en fait, signé par des prisonniers de cette maison d'arrêt. Voilà, qui explique être témoin de ce qui s'était passé. Il y avait une vidéo aussi qu'ils avaient postée, mais je crois qu'elle a été supprimée, en tout cas sur Facebook. Et en tout cas, ce communiqué a été relayé par le syndicat pour le respect et la protection des prisonniers. C'est un syndicat qui a été monté par des proches de prisonniers prisonnières et puis qui a été rejoint par des prisonniers prisonnières, je crois. Et le but, c'est soutenir et porter les luttes de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, voilà, ce communiqué, il a été envoyé notamment, vous pourrez le retrouver sur le site de l'Envolée, quelques jours après le décès de ce jeune homme. Du coup, ce communiqué, je vais vous le lire et vous pourrez le retrouver sur différents sites. Alors, communiqué de prisonniers enfermés à la prison de Seyss. Encore un mort au mitard. Maison d'arrêt de Seyss, le 19 avril 2018. J'y avais 26 ans. Samedi dernier, il était au mitard, dans une cellule disciplinaire de la prison de Seyss. Il y est mort. Les médias relaient une version des faits, une seule, celle des matons, les surveillants. Mais nous, on y vit dans cette prison. On n'est ni sourd ni aveugle. On sait que sa mort a été provoquée par la violence des matons affectés au mitard. Non, J ne s'est pas suicidé. Si plus d'une centaine de prisonniers ont refusé de remonter en cellule plusieurs jours de suite cette semaine, c'est parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour protester ici. J est mort au mitard, et l'autopsie aurait conclu à un suicide. Mais on sait que ce n'est pas le cas, car il y a des témoins qui étaient présents dans les cellules environnantes lors de son passage à tabac, qui ont tout entendu, qui ont assisté à tout ça. C'est suite à un déferlement de coups que J est mort samedi. Pensez-vous que nous serions 200 prisonniers à refuser de remonter en cellule et à déployer une banderole dans la cour de promenade si nous n'étions pas convaincus de leurs mensonges? Tous ceux qui sont passés par le quartier disciplinaire pourront témoigner des humiliations qu'ils y ont subies, des insultes racistes, des crachats à la figure, des ordres donnés comme si on était moins que des chiens. Là-bas, celui qui a le malheur de la ramener peut finir comme J, pendu. Aucun droit n'est respecté dans ce mitard. Les promenades ont lieu au bon vouloir des surveillants et en général, il n'y en a pas. L'accès aux douches nous y est refusé et il peut se passer 15 jours sans qu'on puisse y aller. Pareil pour l'accès au feu, pour allumer une cigarette. C'est maximum 3 fois par jour et ils usent de beaucoup de zèle. Il faut presque les supplier. La peur y règne. Y aller est pour chacun d'entre nous, prisonniers, une vraie descente aux enfers. Cet hiver, plusieurs prisonniers se sont retrouvés dans ce mitard sans matelas, sans couverture et sans vêtements, alors qu'il faisait moins 5 degrés. Juste parce qu'ils avaient tapé sur la grille de leur cellule pour réclamer à manger ou avoir du feu. Ils ont dû dormir par terre, nus, sur un coussin, et manger la gamelle, dans des barquettes qui arrivaient ouvertes, apparemment déjà utilisées. J a été battu par 5 ou 6 surveillants pendant plus d'une demi-heure. Puis il y a eu un grand silence, et les surveillants se sont mis à discuter entre eux, à estimer son poids et sa taille pour s'accorder sur une version des faits. Puis ça a été l'heure de la gamelle, et quand sa cellule a été réouverte, ils ont fait mine de le découvrir pendu. Alors le SAMU est intervenu et a tenté de le réanimer en vain. Le lendemain, ils ont libéré tout le monde du mitard, et personne n'a été entendu, même pas le chef ni les gendarmes. Ça montre bien qu'ils ont des choses à cacher, qu'on ne vienne pas nous dire le contraire. Certains d'entre nous vivent, survivent dans cette prison de Seyss depuis plusieurs années, où ils font beaucoup d'allers-retours. Cette situation n'est pas nouvelle, et d'autres morts suspectes ont eu lieu ici ces dernières années. Nous avons vite compris que notre parole ne valait rien face à la leur, mais nous savons aussi que beaucoup, dehors, s'interrogent ou ont déjà compris leur petite mascarade qui tue. C'est très difficile pour nous de donner des preuves de ce qu'on avance. Ici, nous sommes enfermés. Et chaque information qui arrive dehors risque d'avoir de graves conséquences pour nous. Pourtant, il faut que ça se sache, car nous sommes en danger de mort. Les surveillants jouent avec nos vies dans ce quartier disciplinaire. C'est plus que de l'humiliation, ils nous terrorisent, et ce qui est arrivé à J pourrait arriver à chacun d'entre nous. Nous dénonçons aussi les pressions qui sont faites sur les prisonniers qui ont assisté aux faits. Les témoins, malgré eux de ce qui s'est passé samedi dernier, subissent des pressions psychologiques et sont très clairement menacés de transfert. Tout semble mis en place pour les pousser à bout. Ainsi, 5 d'entre nous ont déjà été transférés suite au blocage de la promenade et sont désormais à Lille, Bordeaux, Sept-Quins. Considérés comme meneurs, on ne les a même pas laissés embarquer leurs affaires personnelles. C'est comme ça que la prison est tenue maintenant, en nous menaçant d'un transfert disciplinaire qui nous éloignerait encore plus de nos familles et de nos proches. Nous exigeons que la direction de la maison d'arrêt remplace immédiatement cette équipe de surveillants. Il est évident que c'est la première chose à faire. La petite équipe sadique de matons du mitard, nous, prisonniers, la surnommons l'escadron de la mort. Ici, on est spectateurs du désespoir humain. Et on sait tous que J pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Il a été battu à mort parce qu'il tapait dans une porte. Il n'en pouvait plus d'attendre, coincé dans la salle d'attente de la prison, sans fenêtre. Il voulait juste regagner sa cellule. Ils sont venus et l'ont plié. On ne soigne pas le mal par le pire. Nous voulons que tout cela cesse. Que celui qui est condamné à aller au mitard puisse au moins conserver sa dignité et que ses droits fondamentaux soient respectés. Nous voulons que la vérité soit faite sur la mort de J et qu'une telle horreur ne puisse plus se reproduire ni ici ni ailleurs. Nous nous associons à la douleur de la famille et sommes prêts à témoigner si elle le désire. Des prisonniers de la maison d'arrêt de Seyss.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Comme l'heure tourne, je propose qu'on passe directement à l'agenda. On s'écoutera une petite musique pour conclure l'émission.
Alors, au niveau de l'agenda, on a plusieurs événements. Après, vous pourrez compléter si vous le voulez. Alors, du coup, on a d'abord le 16 mai, le Parlons-en. C'est, du coup, l'événement s'appelle « Il manque toujours un papier ». Ce sera le mercredi 16 mai, de 10h à 12h. On y échange sur les situations des personnes à la rue, à Grenoble, cette fois-là. Il sera question des démarches administratives, un parcours du combattant. CAF, CPAM, CCAS, Pôle emploi, etc. Quand on est dans la galère, quels sont les problèmes rencontrés ? Il y aura un petit déjeuner le matin et un repas le midi, ouvert à tous et à toutes, et gratuit. Les chiens sont bienvenus. C'est organisé par le Parlons-en. Et ça se passera à la salle polyvalente Hilverte, 32 bis, rue Blanche-Monnier. Ensuite, nous avons le 22 mai, nouvelle journée de mobilisation contre les casses des services publics et les mises en concurrence des travailleurs et travailleuses du public et du privé, dans le but de précariser tout le monde. Alors, je vous invite à suivre les informations sur les sites des différents syndicats qui existent. Et probablement, il y aura au moins ça, une manifestation qui partira probablement de la gare de Grenoble vers 10h. Ensuite, un autre événement appelé Atelier RGPD. Et pour moi, ça change quoi ? Ça se passera le jeudi 24 mai à 18h. En mai 2018, la loi autour des données personnelles change avec le RGPD, Règlement général de la protection des données. Un cadre qui se veut plus protecteur pour les individus. Encore faut-il qu'il et elle aient vraiment la main sur leurs données. Alors concrètement, comment je m'y prends ? Rendez-vous à la Coop pour comprendre la loi et ses enjeux et pour des ateliers pratiques pour reprendre la main sur nos données. La Coop se trouve au 31 rue Gustave Eiffel, à Grenoble. L'événement est gratuit et il faut s'inscrire. Alors je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Et ça se passe dans le cadre de la fête des libertés numériques. Ensuite, un autre événement qui s'appelle Lumière Noire. 14e rencontre traite négrière et esclavage. Ça se passera le samedi 26 mai à 14h. Étincelez avec Lumière Noire. 14h30, projection vidéo et quiz. 16h, portrait des femmes, de l'esclavage à la libération. Réflexion avec José et Diane du réseau Femmes Afro-Descendantes de Lyon. 17h30, scène Lumière Noire, partage ton talent autour d'un buffet froid. C'est organisé par CTNE avec le soutien de Afrique Impact, CADTM Grenoble, CIIP et Survie 38 et d'autres. C'est à la salle 150 aux Galeries de l'Arlequin. Alors, il y aura une marche solidaire pour les migrants qui se passera du 21 au 25 mai de Grenoble à Lyon. Et il faut s'inscrire pour pouvoir y aller. Et on peut trouver les informations sur facebook.com/collectif marche solidarité au singulier. Et le contact, c'est marchesolidairegrelyon@protonmail.com.
Et cette marche, en fait, rejoindra la grande marche qui est partie déjà de Vintimille et qui va arriver ensuite à Calais.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres événements d'agenda à dire.
Alors, le 26 mai, c'est aussi la marche des fiertés. Et autour de cet événement, il va y avoir d'autres événements aussi qui vont se passer. Donc, je vous invite à regarder les sites internet d'information pour voir un peu tous les différents événements qui vont se passer.
Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, retrouvez l'émission en podcast sur le-tami.info/structure/micro-onde au pluriel. Voilà.
Merci, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et encore merci à toutes celles et ceux qui sont venus discuter avec nous aujourd'hui.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci encore.
Allez, à bientôt.
Micro-ondes. Sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Nous sommes en mai, faites ce qui vous plaît.